vous avez mon goût prononcé pour ressortir des textes qu'on pense archi connus. Et puis voir un petit peu si on ne peut pas encore à nouveau réapprendre quelque chose. Donc ça a été mon défi de la semaine. Alors j'espère qu'on retirera quelques perles. Et avant, je voulais, en faisant mes recherches, vous faire écouter juste le début d'un chant qu'on chantera ensemble tout à l'heure, qui date des années 70. Voilà. On plonge dans le passé et ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup le grésillement de la... Voilà. Alors, non, Siméon, c'est pas qu'un vieux monsieur à la longue barbe. Alors, on va essayer de relire le passage dans l'évangile de Luc. C'est le seul endroit où on trouve ce récit. Donc, même Rembrandt, il a cédé au cliché de la longue barbe. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 21, je vais prendre à partir du verset 21. Donc, 8 jours plus tard, l'enfant devait être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il n'ait été conçu. La loi de Moïse ordonne que la mère vive retirée durant 40 jours après l'accouchement. Quand ce temps fut passé, les parents se rendirent à Jérusalem pour accomplir en faveur de la mère la cérémonie dite de purification et pour présenter l'enfant au Seigneur afin de le lui consacrer. En effet, il est écrit dans la loi divine, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi de Dieu, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit, d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. En effet, l'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint donc au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels ordonnés par la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Rappelle-toi que cet enfant est destiné à être pour beaucoup de gens en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un sujet de contestation. Il provoquera les contradictions, mais de cette manière, les pensées cachées et les mobiles profonds de bien des gens seront dévoilés. Quant à toi, Marie, tu le ressentiras comme si une épée te transperçait le cœur. » Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin. C'est un poète, un écrivain français, et il parle de sa rencontre avec un peintre du XXe siècle, Pierre Soulages, et il dit « Chacun de nous est un oignon, une somme de cercles. Certaines rencontres n'enlèvent que quelques pelures. De rares liens nous arrachent tout et nous transforment. Voilà ce qui est arrivé à Siméon, il y a quelques 2000 ans, sa rencontre avec un enfant. Voyons ce que ce récit archi connu de tous, peut encore nous apprendre ce matin. Alors que les bergers et les mages, eux, se déplacent et vont à la rencontre de Jésus à Bethléem, Siméon, lui, attend à Jérusalem. Il n'est pas allé vers le Christ, c'est le Christ qui est venu vers lui. Dieu, de cette manière, honore au plus haut point sa patience. La patience de celui qui a su attendre avec confiance et fidélité. Alors, la première leçon, peut-être, de ce récit, cultivons la patience et la fidélité. Une seule promesse a été faite à Siméon, voir le Christ. Mais cette promesse n'est pas juste pour lui seul, pour son simple bonheur, mais pour tout le peuple. Christ ne sera pas la consolation d'un seul, mais de tous. Siméon n'a pas d'étiquette. Luc ne nous dit pas s'il est pharisien, s'il est sadducéen, s'il est évangélique, s'il est protestant, on ne sait rien. Il nous dit simplement qu'il est juste et pieux. La deuxième leçon, peut-être, serait de retenir qu'on n'a pas besoin d'étiquette pour aimer Dieu et le servir. Admirable vieillard qui sait exactement qu'un seul exaucement peut remplir une vie humaine. Siméon est exaucé de manière extrêmement sobre. Au départ, quand il est arrivé au temple, ce ne serait pas étonnant que Siméon attende un enfant d'une riche famille, présenté à Dieu avec l'offrande, par exemple, d'un agneau, comme le demandait la loi pour ceux qui en avaient les moyens. Mais ici, rien de tout cela. C'est un jeune couple qui s'avance avec deux oiseaux, un enfant semblable à n'importe quel enfant de pauvre, et Siméon, dans sa foi dépouillée, le reconnaît. Troisième leçon, peut-être, à retenir là, l'Esprit Saint, oui, révèle la foi comme une évidence dans des situations improbables. Siméon est comblé de sa rencontre avec le Christ et en cela, il nous interpelle. Il m'interpelle moi-même. Qu'attendons-nous aujourd'hui quand nous parlons de vie comblée, de vie riche, de vie remplie? Siméon nous apprend une seule chose ici, c'est que seul Christ peut véritablement remplir une vie. Et il peut même la remplir en silence, dans le silence de Dieu. Ce jour-là, ce n'était pas un grand jour de fête. La loi prescrit la purification de la maman 40 jours après son accouchement. Et ça ne tombe pas forcément un jour où le temple est blindé et bondé de monde. Ça tombe rarement un jour de fête. Donc ça veut dire que l'essentiel de cette rencontre entre Siméon et Jésus, elle se fait dans un moment ordinaire, dans un impressionnant silence et avec peu de témoins. Oui, retenons que Dieu nous rencontre dans notre quotidien. Pendant toute sa vie, on a un homme qui, de façon consciente ou pas, en filigrane, a attendu. Lorsqu'il rencontre Jésus, il dit quoi ? D'abord, il le contemple. Il ne dit rien au début. Et ensuite, il dit « Mes yeux ont vu le salut de Dieu, la lumière des nations, la gloire d'Israël. » Ce n'est pas avec les yeux du corps qu'il a vu ça, mais vraiment avec les yeux de la foi. Siméon, il reçoit dans ses bras un petit enfant, tout humain, et il contemple en lui mais quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce petit enfant. Combien de temps a-t-il fallu de silence, de méditation, de rencontre pour contempler en Jésus, en cet enfant, l'enfant Jésus. Siméon attendait la consolation de son peuple et son regard va donc bien au-delà. Il contemple en Jésus ce qui concerne non pas seulement Israël, mais tous les peuples, la lumière des nations. Savons-nous voir, nous aussi, l'œuvre de Dieu dans nos vies, certes, mais aussi au-delà, dans la vie des autres, dans la réalité de notre temps, dans la réalité de notre monde et de notre histoire, Oui, Dieu agit au-delà de ce que nous voyons en première intention. Siméon a même vu la croix plantée comme une épée dans le cœur de Marie. Les yeux posés sur Jésus enfant, il le voit déjà sur la croix et il le contemple dans sa lumière de Pâques. Cinquième leçon, peut-être apprendre à contempler au-delà de ce qu'on voit et ce qu'on attend. Siméon, juste et pieux, était-il prédisposé à la contemplation ? Je me suis dit que ça aurait été bien pratique de se dire, ben moi non. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que Siméon soit prédisposé à la contemplation. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il a laissé toute la place dans son cœur pour que l'esprit révèle l'extraordinaire dans un quotidien tout ordinaire. À trois reprises, Luc cite l'intervention de l'Esprit-Saint. Alors, quand on lit d'un bloc, on ne s'en rend pas forcément compte. Il dit dès le départ que l'Esprit-Saint était sur Siméon, qu'il a été divinement averti par l'Esprit-Saint et qu'il vint au temple poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit, il vient à la rencontre de Jésus et c'est par obéissance à la loi que Joseph et Marie sont venus présenter l'enfant à Dieu au temple. Et qui les attend ? Un vieillard qui le prend dans ses bras. Et là aussi, c'est surprenant. Je me suis dit que Siméon apparaissait ici un petit peu aux yeux de Marie et Joseph comme le substitut du père, le substitut visible du père invisible. Je m'explique. Dans l'évangile de Jean, la place par excellence du Christ, c'est le sein du père. Et ici, pour un instant, j'imagine Siméon accueillant l'enfant en son sein. Il l'accueillit dans ses bras. Cette expression est unique dans toute la Bible. Ce geste simple, ordinaire, a quelque chose ici d'exceptionnel. Siméon ne fait rien d'extraordinaire en tenant un enfant dans ses bras. Et pourtant, ce geste de tendresse en dit long. Siméon fait à échelle humaine ce que Dieu fait avec nous lorsqu'il nous accueille. Oui, je me suis dit que Siméon pose ici un regard sur ce qu'il y a de plus profond en l'enfant. Et Dieu pose aussi un regard sur ce qu'il y a de plus profond au cœur de nous lorsqu'il nous regarde. Siméon explore le cœur de l'enfant et il y voit quoi ? La lumière. Dieu explore nos cœurs, non comme un voyeur, mais comme un contemplatif, pour y révéler peut-être certes des ténèbres, mais pour les amener à la lumière. Siméon révèle la nature profonde du Christ, et Dieu, lorsqu'il nous contemple, ouvre la porte à la guérison divine si besoin, et révèle notre nature profonde d'enfant de Dieu. Après le temps de la contemplation vient le temps de la bénédiction. Et c'est beau de constater que Siméon, il ne fait pas que contempler l'enfant comme ça, puis rien ne se passe, non. Il va finir par ouvrir la bouche. Et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour donner des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Et ces paroles de vie, elles donnent la véritable identité à l'enfant qui est en face de lui. Elles lui donnent l'identité de Christ. Et c'est ce que Dieu fait aussi dans nos vies. Alors la sixième leçon que je me suis retirée sur ce texte, peut-être regarder ceux qui nous entourent avec un regard bénissant, un regard de vie, une parole de vie. Il y a une composante essentielle dans ce passage de Luc et de la rencontre de Siméon avec l'enfant, c'est le rôle de l'Esprit-Saint. Alors on va s'y attarder un tout petit peu. L'Esprit-Saint joue un rôle considérable dans ce passage, Luc le mentionne trois fois. Et tout ce que vit Siméon dans sa rencontre avec Jésus, il le fait dans l'Esprit. En mettant l'accent sur l'Esprit-Saint, Luc fait de Siméon ni plus ni moins qu'un prophète. Alors bien modeste hein, le prophète, hein, parce que ça fait une paire d'années qu'il attend sagement, pieux. Juste, certes, mais on ne dit rien de lui avant sa rencontre avec Jésus. On sait, on devine que sa vie a été façonnée par l'Esprit. Et il prophétise donc une seule fois, en disant que quelques phrases. « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour la révélation des nations et gloire pour ton peuple. » Quelle belle leçon d'humilité quand peut-être certains rêvent de parler et de pérorer devant de grands auditoires. Non, Siméon, son seul public, l'enfant Jésus, Joseph et Marie sont d'ailleurs émerveillés de ce qu'il dit de lui. Il n'a peut-être pas besoin de parler beaucoup, ni souvent, ni bien, ni devant des foules, pour être véritablement homme et femme de Dieu et porteur de la bonne nouvelle. Poussé par l'Esprit, Simon, il entre dans le temple pour accueillir le Fils. Et ce récit, il parle de la Trinité, quelque part. Pas à vue d'œil au départ, mais finalement si, parce que Siméon, il n'était pas préparé à rencontrer le mystère de la Trinité en entrant dans le temple. Il a été nourri de l'Ancien Testament et il voit pourtant au-delà de tout ce qu'il pouvait penser et imaginer et de tout ce que son héritage lui avait donné. Il pouvait difficilement faire autre chose que de rester silencieux. Que dire en effet ? Et quand il prend la parole, c'est pour annoncer quelque chose d'extraordinaire, le salut de son peuple et le salut de tous à travers le Christ. Septième leçon peut-être, et avant-dernière, restez attentifs à ce que l'Esprit nous souffle, aussi incroyable que cela peut être. Siméon est tellement comblé qu'il dit « Maintenant, je peux mourir ». Ce grand contemplatif a été richement béni et il bénit à son tour. Il est rempli d'attention d'ailleurs à la fin du récit pour la mère de Jésus. Et là, ça m'a aussi interpellée parce que quand les bergers et les mages vont à Bethléem pour voir l'enfant Jésus, ils n'ont pas du tout d'égard pour la mère. En tous les cas, c'est pas dit, hein, ni pour le père d'ailleurs. Et là, Siméon, il va jusqu'à se soucier de Marie. Et même d'ailleurs, s'il lui annonce les souffrances à venir, il le fait avec beaucoup d'amour et de bénédiction. Et ce vrai contemplatif est tellement proche de Dieu qu'il en devient proche et ouvert des autres. Alors la proximité de Dieu ferait-elle de la place pour les autres ? Cette rencontre de Siméon avec le Christ fait écho à notre propre rencontre avec Jésus. Alors, un tel récit peut nous sembler tellement loin de ce que nous, on a vécu, de notre rencontre, aussi différente soit-elle, d'avec Jésus. Mais cette rencontre, elle dit quand même quelque chose sur, je trouve, la parole discrète, voire quasi silencieuse, de Dieu qui souffle à l'oreille. Il y a dans chaque rencontre quelque chose d'unique que nul ne peut vivre à la place de l'autre. Et cependant, je me suis dit que dans la rencontre avec Dieu, il y a quelque chose que nous pourrions partager, que nous avons tous en commun. Parce que quelque chose, à chaque fois, à mon sens, de semblable à celle de la rencontre avec Siméon, c'est qu'elle change les vies et qu'elle comble. La rencontre avec Dieu change la vie et la comble. Siméon a été comblé, il a trouvé la paix en dedans de lui. Pensez aussi à Job qui a vécu d'atroces souffrances et qui finira par dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu, consolation et paix ensuite. » Alors oui, au fond de notre cœur, sans forcément qu'on s'en rende compte, l'Esprit travaille quand on le laisse faire, tout en douceur et tout en silence. Et lorsque nous avançons comme Siméon les mains vides, pour recevoir dans nos creux la promesse de Dieu, Dieu intervient. Siméon a su contempler, écouter et reconnaître l'enfant Jésus, et plus loin, il a su reconnaître le salut pour tous. Alors oui, même si ce n'est pas notre nature, Nous pouvons, la huitième leçon à retenir, peut-être cultiver la contemplation, pas comme une activité oisive qui ne sert à rien, mais la vraie contemplation de Dieu. Et notre rencontre, en ce sens, dans le silence avec lui. Oui, Siméon est un exemple à suivre, pour sa patience, déjà, sa piété, sa foi et sa simplicité lorsqu'il vient à la rencontre du Christ. Il y va simplement. Et peut-être que des fois, on se complique trop, on torture tout dans tous les sens, alors que ce récit nous rappelle que non, venir à Jésus, c'est venir simplement. Avec ce qu'on est, Siméon est un exemple à suivre. Il s'est découvert indigne en recevant son maître dans ses bras. Et pourtant, il a été richement béni et la paix lui a été donnée. Alors je me suis dit, qui suis-je pour recevoir, moi, au creux de ma vie, celui qui donne la vie à tous? Et pourtant, c'est bien ce miracle-là dont il s'agit. Alors le mystère, il est si grand qu'on pourrait aussi rester en silence. Et pourtant, on pourrait aussi tout simplement bénir Dieu pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait de se révéler à nous par son esprit. Et en plus de se révéler à nous, il nous a comblés, ou il nous comble encore, de cette plénitude que lui seul peut offrir. Alors, dans notre monde agité, Siméon est un exemple. Il contemple, il reconnaît, il bénit et il reçoit la paix. Réserver du temps pour rencontrer Dieu dans le silence de nos cœurs, qu'il puisse ainsi accomplir sa promesse qui est de nous combler de sa paix. Et ça va plus loin, en plus de nous combler de sa paix, on se rend compte qu'il pousse aussi Siméon à porter des paroles de bénédiction sur l'enfant et sur ceux qui l'entourent. Alors, que nous puissions demeurer attentifs aussi à ce qui se passe en nous-mêmes. Aussi petit qu'un enfant, je me suis dit, soit-il, aussi infime qu'une petite lueur de bougie. Faudra peut-être apprendre encore et toujours à saisir les occasions où Dieu nous parle lorsqu'on le contemple, et dans l'ordinaire de nos vies, dans notre quotidien, et pas forcément dans des choses extraordinaires. Tout simplement le souffle de vie, le souffle de l'esprit dans le quotidien de nos journées. Un grand défi est certainement de nous laisser nous déranger par l'esprit, pour ensuite pouvoir louer Dieu dans la paix pour ce qu'il donne. Alors, saisissons-nous de ce souffle de l'esprit afin de louer Dieu et de partager aussi cette paix avec ceux et celles que nous croisons sur notre chemin, dans notre quotidien. Oui, louer Dieu et partager cette paix avec ceux et celles qui cherchent l'apaisement. Et alors, pourrons-nous peut-être dire comme Siméon, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. »